Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Arrêt des cours depuis trois jours au lycée Motema Mpiko à Kinshasa. Les enseignants veulent comprendre les propos de certaines autorités de l'EPST selon lesquelles la gratuité concernait également les classes des humanités. La Suède compte apporter son soutien à la RDC, à condition qu'il y ait un véritable changement dans la réduction de la corruption, de l'impunité et des actes de violence. Le ministre suédois de la coopération et développement l'a fait savoir hier à Kinshasa. Et puis, l'invité, le représentant du PAM en RDC, Claude Jibidar, qui accompagne l'ambassadeur russe à Kananga, nous parle du don de la Russie au peuple congolais, un don en denrées alimentaires en faveur de près de 150 000 déplacés à travers le pays. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Kinshasa, au lycée Motema Mpiko précisément. Les professeurs de cette école secondaire sont en grève depuis trois jours. Ils veulent voir clair dans la controverse autour de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Les enseignants de cet établissement ne comprennent pas bien les propos de certaines autorités de l'EPST, selon lesquelles la gratuité de l'enseignement concernait également les classes des humanités secondaires, c'est-à-dire les classes de première à quatrième des humanités. Jacques-Yves Molina nous explique dans ce reportage.
Nos autorités hiérarchiques ne font que défiler dans notre école pour obliger mademoiselle à rétrocéder tout ce qu'elle avait perçu comme frais de fonctionnement. Comme si cela ne suffisait pas, mademoiselle était interpellée à deux reprises, à la brigade criminelle, au parquet, à la Gombe.
Voilà ce qui est à la base de cet arrêt des cours, explique le délégué du personnel du lycée Motema Mpiko, Désiré Milongo. Pourtant, ici, il n'y a que les classes de 7e et 8e qui sont concernées par la gratuité. Mais comment expliquer tous ces défilés au lycée Motema Mpiko?
Il est déplorable de constater que cette gratuité-là, je ne sais pas, maintenant on nous dira que c'est jusqu'à l'université. D'où est venue cette mesure? S'il vous plaît, je suis désolé, qu'on cesse de politiser l'enseignement.
C'est ce qui a d'ailleurs conduit les élèves de cette école de descendre au Parlement jeudi dans l'avant-midi. Là, elles ont remis leur mémo à la députée nationale Christelle Vuanga. Que dit ce mémo? Élève Tchoudi de la 4e pédagogie.
Notre mémo parle du fait qu'on puisse nous certifier si la gratuité est réellement au niveau humanité. Et on parle également du fait qu'on puisse très bien rémunérer nos enseignants. Nous trouvons qu'ils ont raison d'y réclamer ce droit.
Cet arrêt des cours est à délai indéterminé. Pendant 7 ans, silence radio du côté des autorités de l'EPST.
Situation similaire à l'école d'application de l'Institut supérieur pédagogique ISP de Bukavu, où les enseignements ne sont plus dispensés depuis quelques jours. Cet établissement, rattaché au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, traverse une période d'incompréhension entre autorités et parents d'élèves, alors que certains parents avaient déjà commencé à payer les frais scolaires dans une institution financière de la place. D'autres parents ne paient plus les frais scolaires. Ces derniers sont découragés par une certaine opinion qui brandit la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau du secondaire. La rencontre prévue hier entre la délégation de l'EDAP ISP et le gouverneur du Sud Kivu n'a pas eu lieu. Les enseignants de l'EDAP ISP, eux, tiennent à la poursuite de la prise en charge des enseignants par les parents. Radio Kapi a multiplié les tentatives pour avoir l'explication des autorités nationales sur cette situation confuse, des tentatives qui ont toutes échoué. Les députés du groupe parlementaire Cap vers le changement réaffirment leur confiance en Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale issu de leur rang, ce en dépit des rumeurs faisant état du retrait de leur confiance à cette personnalité. Dans une déclaration faite jeudi à Kinshasa, ces députés ont condamné la destruction méchante des effigies du président Félix-Antoine Tshisekedi et de l'autorité morale du FCC Joseph Kabila. Pour préserver la paix et la cohésion sociale, ces députés du CASH exhortent les uns et les autres au sens de responsabilité. Écoutez à ce sujet Léon Mouboukaï au micro de Michel Kifinda.
Nous avons déploré la destruction méchante de l'effigie du président de la République en exercice et celle de l'autorité morale du FCC. Le manque de tolérance politique qui a tendance à nous éloigner des objectifs que nous nous sommes assignés à travers notre accord de coalition pour l'exercice pacifique du pouvoir. L'escalade verbale qui s'en est suivie entre certains cadres de la coalition FCC cache. Nous saisissons aussi cette occasion pour apporter un démenti sur le prétendu retrait de confiance envers le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Nous exhortons les uns et les autres au sein de la coalition FCC-CACH au sens élevé des responsabilités pour préserver et consolider les acquis de cette première alternance démocratique et pacifique du pouvoir.
Entre-temps, nous apprenons que l'ancien député et sénateur Wildor Makonero, résident à Lubumbashi, est porté disparu depuis mercredi. Selon son avocat qui livre l'information, des sources sûres de Lubumbashi affirment que cet élu est détenu à l'ANR. Maître José Mwanza demande sa libération immédiate. Il ajoute que s'il y a des choses qui sont reprochées à son client, ce dernier doit être présenté devant la justice. Maître José Mwanza est joint par Alain Rung Mushinj.
Je suis surpris de constater que depuis hier, il m'a accompagné à l'aéroport de Lubumbashi pour que je rentre à Kinshasa. Et puis il m'a laissé, j'ai pris mon avion. Arrivé à Kinshasa, j'ai essayé de l'appeler, son numéro ne passait pas. Le juridique de la société Hightech, il m'a dit que non, il est interpellé à l'ANR, Lubumbashi. Mais jusqu'alors, je n'ai aucune de ces nouvelles. Le problème de la réinstallation de la société Hightech, dont je suis à bras conseil, a été déjà exécuté. Ça fait déjà deux jours. Et donc, le problème là ne se pose plus. Mais je constate maintenant que je suppose, parce que je n'ai pas encore la véracité des faits. À l'ANR. Nous sommes dans un état de droit. Si effectivement il est à l'ANR, qu'on puisse l'entendre libérer dans la 48 heures, parce que déjà c'est libéré dans 48 heures. Parce que l'ANR, c'est comme la police judiciaire. Il est assisté aussi par le vrai conseil. Mais jusqu'à présent, si les faits sont liés au conflit de la société Hightech avec les policiers de la société Salam ou Fevermi, c'est déjà au niveau du parquet général sur la cour de Yokatanga. Il y a aussi des affaires qui sont pendantes devant les tribunaux de commerce de Lubumbashi. On doit les libérer.
Pour rappel, après un conflit l'opposant à ses anciens partenaires turcs, Wildor Makonero s'est vu restituer il y a quelques jours la société Hightech, une société de production des matériels de construction basée à Lubumbashi et dont il est le gérant. Ses proches pensent que sa détention aurait un lien avec cette affaire. Nous soutiendrons la RDC si nous remarquons un véritable changement dans la réduction de la corruption, de l'impunité, des actes de violence et l'amélioration du climat des affaires. Déclaration faite à la presse hier à Kinshasa par le ministre suédois de la coopération au développement, Peter Eriksson, est en mission en RDC. En dehors de ces mots, il a indiqué que le Congo est également confronté à une grave crise humanitaire aux quatre coins du pays. Il dit avoir discuté de ses préoccupations avec le premier ministre Sylvestre Ilunga avant son séjour dans l'est de la RDC. Peter Eriksson au micro de Pascal Masirika.
J'ai eu réunion avec le Premier ministre. La discussion était centrée sur comment coopérer dans le futur pour réduire les grands problèmes qu'on a ici en RDC. En dehors de cette crise humanitaire, un autre grand problème, c'est la corruption. Et nous sommes en train de lutter pour que les choses changent, pour pouvoir réduire la violence. Un bon travail de la part du président sur la démocratie, pour réduire la corruption, pour que cela soit une réalité. Un problème en rapport avec les systèmes sécuritaires. Nous pouvons apporter notre soutien dans l'avenir si nous remarquons un changement en démocratie et la réduction de la corruption.
Dans l'actualité, notez aussi que le programme national de lutte contre la tuberculose tient depuis hier 2 jours de réunion, des briefings, des évaluateurs pour la revue externe 2019. Les experts de la tuberculose venus d'au moins 20 pays du monde évaluent à Kinshasa la mise en œuvre des plans stratégiques 2017-2020, les activités exécutées et les interventions mises en œuvre par le PNLT, mais aussi le résultat province par province. Docteur Michel Kassoua, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, explique au téléphone de Maria Mundonga.
C'est un panel d'experts de la tuberculose qui vient d'environ 20 pays du monde, des experts de l'OMS qui viennent de Genève, de l'Afro, OMS aussi, des États-Unis, du Japon, de l'Australie. Ce sont ces experts-là qui ont été proposés par l'Organisation mondiale de la santé, qui vont se mettre ensemble avec nos experts locaux du pays, du ministère de la santé, d'autres secteur de la vie nationale pour analyser les performances du programme de lutte contre la tuberculose.
Quelle est la place de la population ?
C'est une très bonne question, madame. En effet, les interventions de lutte contre la tuberculose sont destinées à la population, c'est-à-dire offrir un diagnostic, offrir un dépistage, offrir des médicaments. Et donc, ces experts internationaux vont interviewer les patients qui sont les premiers bénéficiaires de toutes les interventions du programme afin qu'eux-mêmes disent quelle est leur lecture sur la mise en œuvre des interventions du programme.
Sport. Coupe d'Afrique des Nations 2021. La première journée des éliminatoires pour le compte du groupe D. La RDC et le Gabon se sont quittés dos à dos dans la capitale congolaise. Explication des Dieudonné Kabea.
C'est sur le score vierge des 0 buts partout que Congolais et Gabonais se sont quittés ce jeudi soir au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Les Panthères du Gabon ont fait montre d'une bonne maîtrise aussi bien quand il fallait défendre avec abnégation leur périmètre que quand il fallait se projeter en avant en contre-attaque. D'ailleurs, les meilleures occasions des buts ont été gabonaises. Coup de chapeau au nouveau portier congolais Joël Kiasongwa qui a plus d'une fois a gagné les duels face aux attaquants gabonais, dont le dernier à 5 minutes de la fin contre Pierre-Emerick Aubameyang. Dans ces groupes D, la Gambie, vainqueur de l'Angola à Luanda 3 buts à 1, est en tête avec 3 points, suivi de la RDC et du Gabon 1 point, l'Angola 0 point. Lundi prochain, les Léopards se produiront à Banjul contre les Scorpions gambiens et les Gabonais joueront à Libreville, l'Angola, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires. Dieudonné Joseph Kabeyangalola, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes d'abord en Afrique du Sud. Des centaines de demandeurs d'asile qui campaient devant les bureaux du ACR à Pretoria pour demander leur transfert vers un autre pays sont entrés par la force jeudi dans les bureaux de cette agence onusienne, a constaté un photographe de l'AFP. Depuis le 8 octobre dernier, des étrangers occupent les trottoirs devant les bureaux du ACR pour demander de l'aide afin de quitter l'Afrique du Sud où ils ne se sentent pas en sécurité, disent-ils, après une nouvelle vague de violence xénophobe qui a fait au moins 12 morts en septembre dernier. Mercredi, la justice, saisie par des riverains qui se plaignaient des nuisances, leur a ordonné de quitter les lieux dans les 72 heures. En Guinée équatoriale, la plus grande partie de Malabo, la capitale, était paralysée hier par une pénurie d'essence qui dure depuis le début de la semaine et a vidé les rues de la ville, rapporte un journaliste de l'AFP. Le petit pays d'Afrique centrale, pourtant riche en hydrocarbures, souffre d'une pénurie car des navires transporteurs des carburants sont bloqués en mer par le mauvais temps, a affirmé le ministère des hydrocarbures dans un communiqué.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le représentant du PAM en RDC. Claude Jibidar a participé à la remise d'un don de la Fédération de Russie au peuple congolais à travers le PAM. Il est interrogé par André Kambala.
Monsieur Claude Jibidar, bonjour.
Bonjour.
On peut savoir d'abord l'objet de votre mission ici à Kananga.
C'est un plaisir pour moi d'être ici à Kananga. J'y viens assez régulièrement. Cette fois-ci, je suis venu accompagné de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie, pour venir rendre visite et aller ensemble à une cérémonie de remise d'une donation de la Fédération de Russie au peuple congolais à travers le programme alimentaire mondial.
En quoi consiste cette donation?
Alors, c'est une dotation de 2 millions de dollars qui a été utilisée pour acheter principalement des petits pois qui sont distribués avec d'autres denrées alimentaires que les gens reçoivent depuis quelques mois.
Les dons, soit ce sera de l'argent ou les petits pois, comme vous le dites?
Ce sont les petits pois. C'est une dotation en argent qui a été utilisée pour acheter des petits pois qui sont maintenant distribués non seulement au Kasaï, mais dans d'autres endroits de la République démocratique du Congo.
S'il faut nous circonscrire au Kasaï, c'est pour combien de bénéficiaires?
Cette distribution, d'abord, c'est une distribution qui a déjà commencé, qui a déjà ciblé un certain nombre de gens. Aujourd'hui, nous allons voir une petite distribution qui cible, je crois, environ 8000 personnes qui vont recevoir non seulement des petits pois, mais recevoir aussi d'autres denrées. Mais je dirais, en tout et pour tout, le don de la Fédération de Russie va permettre quand même d'assister au moins 150 000 personnes pendant quelques temps.
En dehors de la Fédération des Russies, le PAM reçoit aussi d'autres donations. De quels partenaires?
Nos principaux donateurs sont USAID, l'Allemagne, DFID britannique, la France, la Belgique, l'Afrique, le Japon, la Chine, toute une série de bailleurs de fonds, l'Union européenne, ainsi de suite.
Sur place au Kassai, comment le programme alimentaire mondial organise-t-il la distribution de ces dons? C'est lui-même le programme qui donne ou il travaille en partenariat avec d'autres structures?
Non, on travaille en partenariat avec des ONG internationales et des ONG nationales avec lesquelles les distributions sont faites. Mais bien sûr, nous sommes présents lors de ces distributions et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure en allant sur le terrain.
Et au fur et à mesure que la population est habituée à recevoir les dons, est-ce que quelque part là vous ne sentez pas que vous créez l'oisiveté dans la population? Est-ce que vous avez une politique pour stimuler la population à pouvoir cultiver? Parce que sinon elle reste seulement dans la réception des dons.
Soyons très clairs. L'assistance est apportée pour 3 mois aux gens qui le reçoivent. Les gens ne reçoivent pas de la nourriture pendant 6 mois. Si quelqu'un, au bout de 3 mois, qu'il a reçu une assistance parce qu'il a été déplacé, il a tout perdu, devient paresseux, c'est que la personne était déjà paresseuse. Donc il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Nous assistons les gens sur une période très courte. Ces 3 mois, vous n'avez qu'à demander aux gens qui reçoivent eux-mêmes si cette nourriture leur suffit pour se nourrir. Même pendant ces 3 mois, ce que nous donnons ne suffit pas. Alors cette histoire de paresse des gens, ce n'est pas vrai. Les gens sont assistés quand ils sont dans le besoin. Je ne connais pas de gens qui sont là et qui se tournent les pouces en disant le programme alimentaire mondial va venir me nourrir.
Dans un territoire du Kassai central le mois passé, la distribution a créé beaucoup de problèmes. La population a appelé la MONUSCO ainsi de suite et la radio. C'est plaignant que les superviseurs qui étaient envoyés sur le terrain confisquaient ce qu'on devait remettre à la population comme cash ainsi de suite. Est-ce que vous avez une politique pour que ce ne soit pas la même chose au niveau du PAM?
J'ai entendu parler d'une histoire. Je ne sais pas encore exactement ce qui s'est passé, mais les procédures sont très claires. Il y a des procédures en place pour identifier les gens qui sont dans le besoin, pour cibler ces gens-là et que ces gens reçoivent ce qui leur est dû. Mais ça doit aller aux gens qui sont identifiés. Ça ne va pas à tout le monde. Il ne s'agit pas de venir se mettre dans la file et de se dire « moi aussi, je vais recevoir quelque chose ». Non. Les gens qui reçoivent sont identifiés. Maintenant, il y en a qui peuvent ne pas recevoir et qui ne sont pas contents et qui vont peut-être laisser entendre que eux devaient recevoir et que ça a été confisqué par quelqu'un d'autre. Je dis ça, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une distribution de nourriture ou une allocation de cash est faite avec des procédures très très claires et très strictes.
Monsieur Claude Zévidal, je vous remercie.
C'était là notre invité, le représentant du PAM en RDC. C'est la fin de ce journal supervisé par Axel Gontcho, la mise en onde de Polydor Basunga. Merci.